Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe.
Il y a quand même un petit espoir du fait qu'ils veulent quand même discuter. Ils auraient pu dire aujourd'hui, bon bah c'est tout, la porte est fermée. Mais j'ai bien précisé qu'il ne faut pas nous balader pendant X temps.
Face à Bridgestone, le gouvernement contre-attaque pour sauver l'usine de Béthune que le géant industriel veut fermer. Vous l'entendez, les syndicats veulent croire en la possibilité d'une négociation.
Interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, restriction des visites en EHPAD, port du masque étendu à plusieurs communes. Dans le Rhône, le préfet et l'ARS musclent leurs mesures contre le Covid-19.
Révélation tonitruante sur les dérives parfois criminels de la finance. De nombreuses banques internationales sont épinglées par une enquête journalistique qui révèle des transactions suspectes et du blanchiment d'argent.
L'Europe incapable de prendre des sanctions contre la Biélorussie malgré le plaidoyer vibrant de la figure de l'opposition devant le Parlement européen. Nous serons à Bruxelles pour comprendre ce qui ressemble à un nouveau couac de l'Union.
Vous entendrez également l'hommage de Lambert Wilson à son camarade de jeu Michael Lonsdale. L'acteur est décédé à l'âge de 89 ans.
Et puis Roland Garros, c'est parti. Pas de tournoi principal pour l'instant, mais des qualifications à huis clos. On vous emmène au bord des cours. La tendance météo avec vous Anissa et du beau temps encore un peu demain au nord.
Et la France est coupée en deux une nouvelle fois. Demain, avec du soleil sur la moitié nord, va falloir en profiter ces derniers jours et beaucoup d'averses d'orage sur la moitié sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le bras de fer a donc commencé ce soir entre le gouvernement français et le géant japonais Bridgestone. Les ministres du Travail et de l'Industrie ont réuni aujourd'hui tous les acteurs du dossier pour tenter de sauver les emplois.
Et on parle ici de 863 emplois menacés. Lionel Gougelot, vous êtes à Béthune, vous avez suivi cette réunion. L'enseignement de cette journée, c'est que le dialogue n'est pas complètement rompu.
Ah oui, effectivement, c'est le sentiment que l'on a parce que même si Bridgestone considère que la fermeture de son usine de Béthune est le seul moyen de rester compétitif en Europe, le groupe se dit prêt maintenant à étudier d'autres solutions, d'autres scénarios alternatifs, comme l'on dit, à cette fermeture de l'usine. C'est ce que veut retenir Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France.
Ils ont étudié un projet d'investissement sur le site de 160 millions d'euros en imaginant même des financements publics à 30%, 50%, 70%. Donc on leur a dit, vous nous les proposez. On va dire oui pour cofinancer et dans ces cas-là, vous les remettez sur la table. Réponse dans 15 jours. 15 jours, on saura s'ils se foutent de nous ou s'ils veulent vraiment trouver une solution.
Alors évidemment, rien ne garantit que le géant japonais du pneu sera prêt à investir massivement pour sauver le site de Béthune. Mais la mobilisation politique permettra peut-être d'éviter le pire. C'est le mince espoir de Bruno Wable, délégué CGT.
L'espoir, oui, on va le garder, c'est clair. Même si qu'il est minime, il est clair qu'on va le garder. Mais j'ai bien précisé non plus qu'il ne faut pas nous balader pendant X temps. Puisqu'on connaît quand même cette direction de Bridgestone, comment elle opère. Mais il y a quand même un petit espoir du fait qu'ils veulent quand même discuter. Ils auraient pu dire aujourd'hui, bon bah c'est tout, la porte est fermée, donc on se raccroche là-dessus.
Mais 5 jours après l'annonce de la fermeture, on sent encore des salariés avec les nerfs à fleur de peau, confidence d'un responsable syndical. Pour l'instant, on arrive à les canaliser, mais attention, la colère pourrait éclater.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Dans le Rhône, à présent, de nouvelles mesures contre le coronavirus. Les rassemblements sont limités à 1000 personnes, les visites restreintes dans les EHPAD et le port du masque obligatoire est étendu à 10 communes proches de Lyon.
Annonce du préfet du Rhône et de l'ARS. Aujourd'hui, l'ARS qui fait état de 43 décès de patients atteints du Covid-19 depuis le début du mois, alors qu'il n'y avait plus aucun décès lié au Covid en juillet et en août. Pascal Mayos, préfet du Rhône, a toutefois tenu à maintenir l'activité des bars et restaurants et il explique pourquoi.
Nous avons décidé de ne pas fermer les bars et restaurants, considérant qu'il valait mieux que les gens soient dans ces établissements plutôt que sur la voie publique. Il y a des professionnels dont c'est le métier. Eh bien, nous faisons le pari qu'effectivement, ils peuvent encadrer cette activité plutôt finalement que de laisser chacun responsable de son comportement. Des contrôles seront effectués de façon beaucoup plus soutenue dans les 2 semaines qui viennent, de façon à sanctionner de façon exemplaire les établissements qui ne respecteraient pas les règles qui sont édictées par les autorités sanitaires.
Certains vont vous dire que vous ne tapez peut-être pas assez fort.
Mon objectif n'est pas de taper. Mon objectif est de faire comprendre à nos concitoyens qu'il nous faut assurer la cohabitation de 2 principes. Le premier, faire reculer l'épidémie. Et le deuxième, préserver au maximum l'activité individuelle et collective.
Le préfet du Rhône, propos recueillis par Jean-Luc Boujon. Et puis aujourd'hui, 7 nouveaux centres de dépistage Covid ouvrent en Île-de-France. L'idée, c'est de soulager les laboratoires saturés, de permettre d'obtenir des résultats plus vite. Et d'ici 2 semaines, la région Île-de-France prévoit d'ouvrir 20 centres de ce genre.
Oui, et puis en Espagne, c'est une autre histoire. On on passe à l'étape d'après avec un reconfinement par quartier dans les banlieues et grandes banlieues de Madrid. Plus de 800 000 personnes sont tout de même concernées.
Deutsche Bank, ING, HSBC, de grandes banques internationales ont plongé en bourse aujourd'hui après la publication d'une vaste enquête d'un consortium de journalistes qui révèle de nombreuses activités suspectes et même des cas de blanchiment d'argent.
Et pour en parler, Élise Dangean du service économie. Élise, bonsoir. On parle de blanchiment, bonsoir. On parle de transactions suspectes. Est-ce qu'on sait quelles sommes sont en jeu, ce que ça représente?
Absolument, et ça donne le vertige. On parle de 2000 milliards de dollars de transactions entre 1999 et 2017. Dans cette enquête, menée par une centaine de médias internationaux, le consortium donne le détail. Argent de la drogue ou d'actes criminels, fortune détournée de pays en développement. Bref, de l'argent sale qui a pu entrer et sortir des banques malgré les avertissements de leurs propres employés. À la base de ces révélations, des milliers de rapports d'activités suspectes. Ce sont des signalements transmis à la police financière du Trésor américain par des banques du monde entier, le tout hors de la vue du public. Certaines banques auraient même continué leurs activités après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière. Alors depuis la parution de l'enquête, quasi toutes les banques ont plongé en bourse, vous l'avez dit, et tentent désormais de se défendre d'accusations anciennes, bien connues et résolues selon la plupart.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
À l'étranger maintenant, la figure de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, était à Bruxelles aujourd'hui pour demander l'aide de l'Europe. La Biélorussie qui traverse, vous le savez, une crise politique sans précédent après l'élection tronquée d'Alexandre Loukachenko début août.
Et députés européens et ministres ont écouté avec attention Svetlana Tikhanovskaya et Isabelle Ory, malgré son plaidoyer, eh bien l'Union européenne n'a pas pu s'accorder sur des sanctions à l'encontre de la Biélorussie.
Non, et pourtant, Svetlana Tikhanovskaya s'est montrée éloquente et même émouvante lors de ses interventions à Bruxelles. Devant les députés européens, la figure de proue de l'opposition biélorusse a sorti de grandes photos illustrant la répression, la torture ou la mort de ses compatriotes. Malgré cela, nous manifesterons dans les semaines, les mois ou les années qui viennent si nécessaire, a-t-elle lancé, avant de préciser ce qu'elle attendait des Européens.
J'apprécie vos efforts pour nous aider sur des choses basiques. Il faut reconnaître l'absence de légitimité de M. Loukachenko, demander la libération des prisonniers politiques et introduire des sanctions individuelles contre tous ceux qui sont impliqués dans la falsification de l'élection et la répression. Nous avons besoin de votre soutien.
Sauf que ce soutien, il se fait attendre. Aujourd'hui, les 27 ont été incapables d'adopter des sanctions ciblant 40 membres du régime. C'est un de ces pataquès dont l'Europe a le secret. Chypre a mis son veto. Nicosie est pour les sanctions, mais les Chypriotes veulent en parallèle des mesures contre la Turquie pour ses forages illégaux en Méditerranée. Résultat, Svetlana Tikhanovskaya repart les mains vides. Les chefs d'État qui ont rendez-vous en fin de semaine récupèrent le dossier. À eux de trouver un accord. La crédibilité de l'Europe en dépend, selon le chef de la diplomatie de l'Union.
Isabelle Ory, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Europe 1, Julien Bugier.
19h08, on se retrouve dans quelques secondes. À la suite de la publicité, on parlera de cette rencontre des opposés, d'une certaine manière, entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle. Ils se sont rencontrés.
Et puis on ira à Roland-Garros. Le grand tournoi débute dimanche, mais les qualifications ont déjà commencé à huis clos.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, 19h10, la suite de votre journal avec toujours Simon Rubin. Et cette rencontre électrique, peut-être, aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, invité par le ministre Gérald Darmanin, Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, est venu discuter sécurité.
Et les deux hommes s'étaient écharpés sur le sujet tout récemment. À l'issue de la rencontre, Gérald Darmanin a annoncé l'ajout de 14 policiers nationaux dans les rues de Grenoble. Et puis, il a aussi proposé de renforcer la vidéosurveillance, de réfléchir à l'armement de la police. Autant de mesures à l'opposé des convictions du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui s'est d'ailleurs montré plus que dubitatif à la sortie du rendez-vous.
Tous ceux qui ont mené ces politiques répressives, comme le ministre engage aujourd'hui le gouvernement, tous ceux-là sont revenus en disant qu'ils s'étaient plantés et qu'ils devaient changer de tactique en matière de santé publique, en matière de mobilisation des moyens financiers du gouvernement, en matière de conditions de travail pour la police, en matière de sécurité. Et donc, en profitant de cette expérience qui est quand même maintenant de plus en plus largement partagée un peu partout dans le monde, ce n'est pas ma perspective. Lui, il fait le choix de la répression. Il faut qu'il nous dise finalement c'est quoi les indicateurs qui mesureront le succès de cette politique en matière de santé, en matière de sécurité également, C'est évidemment ce qui est attendu.
Éric Piolle, le maire de Grenoble, au micro de Jean-Rémy Baudot.
Bon, pour la réconciliation, ça sera pour plus tard. Oui. L'acteur Michael Lonsdale est décédé. Il avait 89 ans, on l'a appris aujourd'hui. Il avait joué notamment au cinéma avec les plus grands, Truffaut, Jean-Pierre Mocky ou encore Alain René.
Et on se souvient aussi de son rôle dans Des hommes et des dieux qui retrace l'enlèvement avant l'assassinat en 1996 en Algérie de 7 moines cisterciens à Tibirine. Écoutez le témoignage et l'hommage de Lambert Wilson qui avait joué avec lui sur ce film.
Il avait compris beaucoup de choses sur le cinéma, notamment il était très peu démonstratif, la caméra vraiment venait voler son intelligence dans son regard. Quand je pense à Michael Lonsdale, je pense surtout à sa voix. C'est une voix de chanteur d'opéra qui serait au repos, qui parlerait simplement plutôt que de chanter. On s'imagine subitement qu'il allait entonner un air de basse profonde russe pour jouer des Rasputin, pour jouer des personnages comme ça très, très enflammés, avec une très grande profondeur et une grande virilité dans le timbre. Michael Lonsdale était un homme très croyant. Sans doute, il devait attendre quelque chose de l'ordre du merveilleux au moment de son départ. Alors, je lui souhaite.
Lambert Wilson au micro de Johanna Chabas.
Et on termine avec du sport. Du sport et le début de Roland-Garros aujourd'hui. En tout cas, ce sont le début des qualifications.
Le tournoi principal, effectivement, débutera dimanche. Mais en attendant, ce sont les joueurs et joueuses moins bien classés qui vont tenter d'obtenir une place pour le tableau final. Alors on commence, ça y est, à entendre le bruit des échanges, les annonces des arbitres. Un tournoi évidemment particulier. Covid oblige, hein, Corinne Boulou.
Oui, respecter ces précautions, c'était la condition sine qua non pour pouvoir disputer le tournoi. Alors ces qualifications se disputent, c'est vrai, sans public, mais il y a tout de même quelques personnes accréditées, disséminées ici ou là sur les gradins. Des ramasseurs de balles, par exemple, dans l'attente de rentrer sur un court. L'occasion aussi pour eux d'écouter les dernières consignes.
N'oublie pas le petit coup de lavage de main avant le changement de balle, ça, vraiment, que ça devienne un automatisme, ok ? Pour tout le monde, hein.
Un millier de personnes a déjà été testé pour 2 cas positifs et 3 cas contacts, tous les 5 exclus de Roland-Garros. Enzo Cuoco, premier Français à passer aujourd'hui au deuxième tour des qualifications, se plie aux contraintes particulières de cette édition comme tout le monde.
Il y a vraiment tout qui est mis en place et tout qui est fait avec l'isolement en arrivant à l'hôtel, avec le nombre de personnes limitées. Il y a vraiment tout le possible qui est mis en place pour nous permettre de jouer dans des conditions saines. Pour aller sur le terrain, on a une entrée spéciale pour ne croiser personne. Donc voilà, c'est sûr que c'est bizarre parce qu'on s'attend voilà, à avoir un peu de soutien à domicile, entre guillemets, à avoir un peu d'effervescence dans le Grand Chelem qu'on n'a pas.
Et en prime, le soleil a accompagné cette première journée de qualification sur les 12 cours annexes de Roland-Garros. Une aubaine en ce début d'automne.
Corinne Boulou qui suivra l'ensemble du tournoi pour nous, un Europe 1 radio officiel de Roland-Garros. Et puis un dernier mot de cyclisme, une enquête préliminaire ouverte sur des soupçons de dopage et qui vise une équipe du Tour de France, Arkea Samsic. C'est l'équipe du Français Warren Barguil notamment. La procureure évoque la découverte de nombreux produits de santé, dont des médicaments. Et surtout, une méthode pouvant être qualifiée de dopante.
Affaire à suivre, l'info vient de tomber il y a quelques instants. C'est une dernière minute. Merci Simon Rubin pour l'info.